Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à tous, vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec et Nord-Charente, mais aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire, chacun dit 19h-20h30. Nous accueillons aujourd'hui la LJ au Cognac, on va parler handball bien entendu. Nous accueillons donc Richard Nordlinger. Bonjour Richard.
Bonjour Didier.
Bienvenue sur Culture Sport, merci d'avoir accepté notre émission. Tu n'es pas seul, donc tu es avec le coach, donc tu vas nous le présenter dans quelques instants. Je te cède la parole donc pour pouvoir nous présenter ton nouveau coach.
Alors il s'agit de... Alors déjà, je suis content de revenir à Attitude avec après cette longue période de Covid qui nous a tous un peu privés des terrains sportifs. Et donc on a profité de cette grande période d'arrêt pour réfléchir et amener à se structurer peut-être un peu plus vite que ce que l'on avait pensé. Et donc j'ai été chercher et recruter Désiré Parfait comme entraîneur de la N2, mais surtout comme manager général du club.
C'était dans les projets, dans un projet de restructuration du club?
Non, c'était pas dans un projet, c'était dans une évolution. C'est-à-dire que on a un objectif de monter en National 1 et puis sur 5 ans, pourquoi pas d'aller faire de la D2. Donc il faut que ça se construise. Tu fais pas que du un coup, c'est-à-dire que ça va de la formation des plus jeunes à ton équipe première, à la structuration du club, à l'organisation du club, à l'ouverture du club sur l'extérieur, à diversifier peut-être nos activités. Voilà, on a déjà 3 classes dans des collèges sur Cognac et les alentours. On va certainement ouvrir une section sportive l'année prochaine. Voilà, on commence par la base et on progresse. Et l'exemple flagrant est samedi, lors du premier match de championnat, on avait 3 jeunes dans l'équipe de 15 à 17 ans.
D'accord, donc c'est une nouveauté par rapport à l'année dernière, non ?
C'est une évolution, c'est-à-dire que c'est ancré dans le projet sportif, le projet associatif du club, d'amener nos plus jeunes vers le haut niveau. On commençait déjà à le faire un petit peu les années auparavant. Là, j'ai l'impression, et c'est la discussion que j'ai avec Désiré, c'est d'accentuer ce mouvement.
Concrètement, au niveau du club, il y a combien d'équipes aujourd'hui ?
Normalement, on a 16 équipes. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est à 15, sachant que les équipes jeunes n'ont pas toutes repris. Les moins de 11, les moins de 9, l'école de handball. Ça reprend samedi. On va voir ce que ça donne. L'année dernière, on a eu à peu près 15% de baisse de licenciés. Alors, je trouve qu'on s'en tire pas si mal que ça parce qu'il y a des clubs, ils sont à 60%. En Charente. Donc, je pense qu'on a limité la casse. La vraie question, c'est que l'année dernière, on a pu reprendre les interventions dans les écoles au mois de mai. Donc nous sommes allés faire des interventions sur les écoles de Château-Bernard, Cognac principalement et autour, et on a touché 480 gamins. D'accord. En 2 mois et demi. Donc c'est pas si mal que ça. On va voir si ce travail paye avec l'arrivée des gamins en école de handball, puisqu'on avait touché des CM1, CM2 qui soit passe en CM2, soit en 6e.
Moi, j'avais une question pour toi, Richard, par rapport à tout ce travail de formation. Tu nous avais dit, quand tu étais venu en studio la dernière fois, donc ça remonte à maintenant, il y a un peu avant le Covid, que dans l'échiquier des éducateurs, tu avais finalement mis tes éducateurs, entre guillemets, les meilleurs, même si, bon, ça reste peut-être relatif, finalement, dans les catégories d'âge les plus basses. Est-ce que tu as l'impression que là, que ce travail-là, il commence vraiment à payer ?
Ah, totalement. C'est-à-dire que si Désiré aujourd'hui peut intégrer 5-6 petites, enfin petites façon de parler, de moins de 18 ans sur les séances de National 2, c'est que le travail a été fait en amont. Et que le pari que j'ai pris un peu à contre-courant il y a 5 ans, ça paye, ça commence à payer. Oui, donc on forme pas une joueuse ou un joueur d'ailleurs. En un an, on prend le joueur ou la joueuse en moins de 11, moins de 13, moins de 15,
Ouais, puis d'ailleurs c'est gratifiant de voir finalement ce jeune ou cette jeune qui arrive à l'LJO, qui finalement fait un peu toutes les catégories d'âge au sein du club et qui finalement elle est sur les entraînements de la Nationale 2, sur la feuille de match de la Nationale 2, et puis elle foule aussi le parquet de la Nationale 2. J'imagine que c'est toi qui es président depuis maintenant une décennie, je crois, c'est gratifiant de voir un peu l'évolution de ces jeunes là.
Je vais être un peu égoïste, mais c'est mon plaisir de président. C'est-à-dire aujourd'hui, c'était ma satisfaction de dire que tous les efforts que tu fais, les moyens que tu investis, humains, financiers, sur ce projet, ça paye. On a eu dans le passé une jeune fille, Mallory Pavillard, elle est gardienne aujourd'hui en D2 à Octeville. On a une jeune, Pauline Giraud, qui joue en National 1 à La Rochelle, et l'année dernière elle jouait en D2. Voilà, à un moment donné, c'est la satisfaction d'un président de pouvoir avoir des jeunes qui s'envolent et qui progressent. Sinon, ça sert à rien de se lever le matin. Pour moi. Hein.
Moi, je connais plus le football. Après, il y a des labels jeunes, notamment dans le football, où les clubs doivent respecter certains critères, notamment dans le domaine de la formation. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que la fédération de handball elle a mis en place des labels formation ou d'autres choses comme ça?
Oui, il y a des labels qui existent, école de handball, sur la formation des plus jeunes. Et donc, depuis 8 ans, on est au plus haut niveau, label or.
Non seulement vous avez acquis ce label or, mais vous maintenez le niveau d'exigence pour le conserver, ce qui est presque peut-être plus dur que de la carrière au moins une fois.
Oui, mais il faut cette exigence.
Bien sûr.
C'est la clé du projet sportif et associatif du club. Si on commence à faire des économies sur la formation des jeunes et la suite, c'est un peu de... On se dévoue et... C'est un peu de renoncement. Donc, une fois que tu es engagé dans cette politique et dans cette voie, faut s'acharner et c'est un travail au quotidien.
Et puis, on a la chance d'avoir le nouveau coach de la LJO, le nouveau coach et donc le nouveau manager général du club qu'on essaie. Déjà, Désiré, bienvenue en Charente. J'imagine que pour toi, rejoindre un club comme la LJO qui est vraiment sur la pente ascendante, une vague, la vague du succès, on va dire. J'imagine que pour toi, c'était important à l'heure de choisir ce projet.
Alors, tout d'abord, bonjour à tous. J'avais plusieurs choix de destination. Je pense que le président a été bon. Pour venir me chercher, je pense qu'il a été bon. Il m'a sorti les arguments qu'il fallait. Et c'est un peu ce qui m'a motivé pour venir. Maintenant, je prends jamais de décision tout seul. Quand je pars dans un club, je veux dire, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai une épouse, et puis on en discute. Et puis, c'est vrai que Richard est venu à la maison, on en a discuté, et ça a été un atout supplémentaire par rapport à d'autres clubs. Voilà, où on était plutôt sur une relation, sur des conversations par mail ou par téléphone.
Donc c'est vrai que c'est forcément mieux d'avoir le contact humain.
Ouais, tout à fait. C'est un peu ce qui a fait la différence avec deux, trois autres clubs. Maintenant, j'arrive ici un peu en terrain connu. J'observe un peu ce qui se passe et je regarde, j'observe un peu ce qui se passe. Je pense que c'est pas évident pour certaines personnes du club de voir débarquer. Pour débarquer un entraîneur, c'est une chose, mais d'annoncer un manager général, je pense que les gens sont un peu craintifs d'avoir trop de que tout soit chamboulé, mais je suis pas là pour ça, quoi. Je suis là plutôt pour aider à la structure du club et aider à ce que le club aille le plus haut possible. Et si on parle de la formation des jeunes, justement, de regarder ce qu'on peut améliorer sur les jeunes et sur cette formation.
Mais justement, quel regard tu portes un peu sur, avant de rejoindre la LJO, tu avais un peu suivi peut-être le parcours du club, regardé un peu ce que le club faisait. Quel regard un peu tu portes sur les dernières saisons globales du club?
J'ai pas trop regardé. Moi, je suis plus axé sur le futur, donc j'ai pas trop regardé ce qui se passait avant dans un premier temps. Maintenant, je connaissais Richard un peu depuis un certain moment. On se connaissait, on s'était déjà croisés. J'ai l'avantage aussi de connaître des joueuses de Cognac, des anciennes joueuses que j'ai pu récupérer, entraîner, et où je leur ai posé un peu de questions par rapport à ce club. C'est pas évident de passer certains caps. dans les clubs. Maintenant, nous, il faut qu'on passe un cap, c'est-à-dire que si on veut absolument garder cette jeunesse, il va falloir, dans un court terme, monter d'un niveau supplémentaire, c'est-à-dire les joueurs nationaux. Parce que sinon, certaines de nos joueuses actuelles, là, le groupe moins de 18, là, qui est entraîné par Sina, qui est un très très bon groupe, où il y a du très bon travail de fait auparavant, ces jeunes vont être appelés par d'autres clubs. Si jamais nous, on ne monte pas à court terme en National 1, elles vont être appelées par d'autres clubs. Et puis je peux comprendre après une jeune qui dit « Bonjour Cognac, c'est bien beau, vous êtes en N2, mais moi j'ai un contact en N1 ou en D2 ». Quoi.
Oui.
Donc ça serait dommage de former ces jeunes et de ne pas pouvoir les utiliser pour l'avenir.
Donc au final, monter en National 1, ça répond finalement à deux exigences. La première, continuer un peu cette montée en puissance du club qui était montée en National 3 puis en National 2. Et puis surtout, à t'écouter, c'est surtout rendre le club attractif pour garder ses meilleurs éléments au niveau jeune.
De toute façon, plus vous allez monter de niveau, plus le club sera attractif dans tous les domaines. Soit domaine sportif, domaine économique, au niveau des gens autour dans le club, les gens vont s'investir parce que il y aura automatiquement une euphorie parce qu'on ira jouer en National 1. Maintenant, d'aller jouer en National 1, de monter, moi j'ai pas, je vais pas claquer des doigts et dire voilà, c'est sûr, on va monter quoi. Je connais pas les adversaires.
Oui.
Une saison c'est long et puis on sait pas, on peut avoir des blessés, on peut avoir X raisons de faire des contre-performances. Maintenant je suis là pour essayer d'apporter le meilleur pour Cognac Handball et puis surtout essayer de faire grandir ce club.
Et par rapport à ton parcours, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours de joueur déjà et puis après d'entraîneur?
Alors. Alors j'ai 55 ans, donc j'ai un peu de vécu dans le handball. J'ai joué au niveau national, surtout dans le nord de la France, parce que je suis un ch'ti, je viens du côté de Lille. J'ai eu la chance d'évoluer sur Toulouse à l'époque avec Monsieur Claude Onesta, que tout le monde peut connaître dans le handball, qui a eu pas mal de médailles avec l'équipe de France. Et après avoir entraîné dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, en Belgique, je suis descendu sur Narbonne. C'était un choix de vie avec mon épouse et mes enfants. Narbonne, j'ai d'abord entraîné du côté de Carcassonne, avant de reprendre les filles de Narbonne qui étaient en excellence régionale et que j'ai fait monter de 5 divisions en 6 ans. Et ensuite, je suis parti m'exporter 3 ans en Suisse. Et c'était très très intéressant, enrichissant, de voir un peu comment ça se passait un peu dans un pays étranger. Et ça m'a apporté encore un peu plus d'aller sur l'étranger, de quitter un peu la France, de voir comment le handball évoluait là-bas, comment étaient les gens, comment ils voyaient le sport. Et c'est carrément différent de la France. C'est carrément autre chose. C'est différent de la France. Et puis,
Justement, alors, pour moi, ouais. Tu prononces le mot magique parce que la Suisse, c'est un peu mon pays de cœur aussi. Déjà, où est-ce que tu étais en Suisse? Et puis, deuxièmement, le handball en Suisse, comment se porte-t-il?
Alors, j'étais au-dessus de Lausanne, à Yverdon-les-Bains. J'étais également responsable de la structure sport-études à Lausanne. Donc, comment se porte le handball en Suisse? Le handball en Suisse évolue très, très bien et plutôt vers le haut. Je pense qu'ils ont eu du mal à comprendre un petit peu au départ. Le sport en Suisse, c'est surtout le sport de glisse, quoi. Le hockey, le ski et puis les autres sports, c'est un peu en dessous. Mais là, je pense que ça fait 4-5 ans que les Suisses ont compris qu'il fallait mettre un peu plus de finances à l'intérieur du sport. Et la Fédération de handball suisse, vraiment, moi, sur les 3 ans où je suis intervenu là-bas, a vraiment évolué. C'est-à-dire que les diplômes, que ce soit au niveau des diplômes des entraîneurs ou sur la structure des clubs, le handball dans les écoles, ça a très très bien évolué. Et on a vu le dernier résultat des Suisses au niveau handball. Je pense qu'ils n'ont pas été ridicules contre les Français au dernier championnat du monde. Et donc voilà quoi. mais très très enrichissant d'aller un peu à l'étranger. Et puis si Richard était pas venu, peut-être je serais parti dans un autre pays.
C'est vraiment intéressant finalement d'avoir.
J'avais trois projets, j'avais deux clubs, deux gros clubs de France, et j'avais un autre projet sur une sélection à l'étranger.
Donc aujourd'hui, ta famille est avec toi sur Cognac ?
Non, pas du tout. Je suis tout seul à Cognac. J'ai une nouvelle famille, c'est le Cognac Handball. Mmh. Mon épouse est prof EPS, prof de sport. Donc, on a la chance d'avoir un directeur d'école, de collège qui est compréhensible et qui lui a laissé son vendredi et son lundi. Elle travaille sur un 80%, donc elle peut me rejoindre ici le week-end, voilà, une fois tous les 15 jours.
Vous écoutez Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Ce soir, nous recevons la LJO.
Le fait d'arriver à Cognac, finalement, ça te permet aussi de découvrir une nouvelle région, la Nouvelle-Aquitaine, enfin du coup l'ancien Poitou-Charentes. Oui. Surtout, tu arrives donc riche de plusieurs expériences, que ce soit dans le Nord, dans la région narbonnaise et puis en Suisse. Quels sont, entre guillemets, tes premiers projets pour la LJO ? Est-ce qu'il y a déjà des pistes de travail qui ont été dictées avec le président ?
C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je dis un petit peu aux gens là qui sont autour de au club et que j'ai pu rencontrer. Je suis plutôt en observation en ce moment et puis regarder un petit peu ce qui se passe. Puis je pense que parce que ça fait qu'un mois que je suis ici, hein, ça fait pas non plus des mois et des mois. Donc ça fait un mois que je suis ici, donc je regarde un peu ce qui se passe et puis on en discute avec Richard en ce moment. Et je pense que d'ici un mois, on mettra des flèches, on tracera le tableau, on mettra des flèches sur les objectifs et les priorités à mettre en place. Juste comme ça, voilà, il y a une réunion technique qui va se dérouler dans 15 jours, 3 semaines. Je vais rencontrer d'autres personnes là incessamment sous peu pour voir un peu ce qu'on pourrait faire évoluer, ce qu'on peut faire évoluer. Donc je vous dis, pour l'instant, je suis en train de regarder et puis plutôt observer. Et je pense que dans un mois, deux mois, le rôle de manager général, il sera vraiment mis en place avec des objectifs bien précis.
D'accord. Bon, on va surtout parler du coup de la casquette d'entraîneur. Ouais. Parce que vous avez joué le premier match du championnat le week-end dernier contre Angers, victoire 33 à 21. Quelle analyse tu fais de ce premier match? Une victoire large au niveau du score. J'imagine que c'est un succès qui est logique.
Ouais, c'est un succès qui était logique par rapport à l'adversaire qu'on avait en face. Comme j'ai dit aux filles, on fait de la compétition. La compétition, c'est de gagner. Après, les gens me disent oui, il y a la manière, c'est sûr, tout le monde veut gagner avec la manière. Mais la priorité, c'est quand même de gagner quand on fait de la compétition. J'ai des points de satisfaction, évidemment, et j'ai aussi des points où je suis pas très très content. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux sur tous les plans techniques, que ce soit sur la montée de balle, l'attaque placée, la défense, le repli défensif. Il y a encore beaucoup de travail. Moi j'arrive ici, je pense que j'ai un peu bouleversé le fonctionnement des entraînements et comment les filles fonctionnaient. Si je prends un peu ce que m'a dit la capitaine, elle m'a dit c'est super coach, mais t'es spécial. Je lui dis je suis spécial en quoi? Elle m'a dit t'es spécial. Mais elle a pas su me dire dans quoi j'étais spécial. Mais je pense que j'ai un peu bouleversé un peu certaines choses sur la façon d'entraîner, sur la façon de voir les choses. Je vais donner un exemple. On a fait une préparation physique et à aucun moment les filles ont été courir autour du stade.
D'accord.
Pourtant en préparation physique on va courir quoi. Sauf qu'on est dans un club intermédiaire, j'ai 3 entraînements par semaine, et si je commence à prendre 15 jours pour aller autour du stade et aller faire courir les filles, moi je perds du temps sur le plan handball. Donc il faut que je fasse des entraînements avec de la préparation physique intégrée dans la séance d'entraînement. Moi j'ai 3 entraînements par semaine, donc il faut que je travaille sur mes 3 entraînements toutes les phases du handball. Donc les phases du handball, ça passe de la défense au repli défensif, à l'attaque placée, au jeu de transition, à la montée de balle, à l'engagement rapide. Faire tout ça en 3 entraînements par semaine, je peux vous dire que c'est compliqué.
Chez les pros, le ballon est vite arrivé dans les entraînements.
Oui, il faut tout de suite mettre du ballon. En plus, on peut faire aujourd'hui la préparation physique intégrée avec du ballon, et je pense que les filles prennent plus de plaisir quand elles ont un ballon en main.
Bien sûr.
Donc voilà. Mais quand on est chez les pros, c'est beaucoup, des fois, c'est plus facile. puisqu'on a toutes les filles à disposition, puisqu'on a plus de créneaux, puisqu'on a plus de temps pour s'entraîner. Donc chez les pros, c'est plus facile. Je félicite toujours les entraîneurs qui sont sur les petits clubs ou des clubs intermédiaires, parce que là, c'est là où c'est le plus difficile. Parce qu'on n'est pas toujours sûr d'avoir les gens à l'entraînement, parce que les gens travaillent, parce que les gens ont une vie de famille à côté, et c'est pas des pros. Donc c'est plus difficile par moment d'entraîner des clubs intermédiaires que des clubs professionnels. Donc voilà un petit peu mon point de vue. Mais je suis aujourd'hui très satisfait du groupe. Le groupe est super agréable. Les filles sont super sympas. Et je vous assure, elles bossent à l'entraînement.
Quel bilan un peu tu tires de cette prépa? Et puis comment tu analyses ce groupe? Est-ce que tu sens que les filles sont à l'écoute?
Franchement, ça bosse. J'ai rien à dire par rapport à ça. Et les filles sont très à l'écoute. Après, je suis assez strict, donc je pense qu'elles l'ont aussi compris. Mais on peut être strict à l'entraînement et puis à côté avoir un peu d'humour et puis être décontracté. Donc voilà un peu comment je fonctionne. Maintenant, je vous dis super groupe, très agréable, on rigole bien, mais on bosse à l'entraînement. On bosse.
Désiré, quelle différence il y a entre, pour toi, entre entraîner des garçons et entraîner des filles?
Je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivé sur Narbonne, j'avais jamais entraîné de filles. Si, tout au début, j'ai commencé à entraîner, j'avais pris des moins de 14, ou des moins de 16 et des moins de 18 filles. Tout au début, quand je commençais à entraîner. Je vais vous raconter une anecdote, c'est que quand j'ai commencé quand je suis allé à Narbonne, quand les dirigeants m'ont appelé, c'est en fin de compte, c'est l'ancien entraîneur qui entraînait les filles qui m'a téléphoné pour demander si je voulais entraîner des filles. Alors moi, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Et je suis rentré chez moi et j'ai dit à mon épouse, ouais, le club de Narbonne m'a appelé pour entraîner des filles. Et ma femme qui a fait du volley à un très bon niveau, qui était volleyeuse, qui a fait du volley à un très bon niveau, m'a dit, écoute, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, elle m'a dit, écoute, essaye. Si ça passe, si tout de suite ça passe, il n'y a pas de souci, tu peux entraîner des filles. Par contre, si au bout de 2-3 entraînements, tu vois que ça passe pas et que arrête tout de suite les filles. Donc, avec l'expérience qu'elle avait, puisqu'elle a eu beaucoup de d'hommes qui l'ont entraînée, voilà, elle m'a dit essaye et puis tu verras bien. Et j'ai essayé et puis apparemment le feeling est passé et puis j'ai entraîné après des filles. Alors la différence c'est que la fille, alors chez les garçons, on peut être strict, hyper droit, et puis et je dirais comment je peux vous dire ça, et assez hard. Mais chez la fille, il faut toujours j'ai du mal à trouver l'expression.
Et une dimension peut-être plus psychologique avec des filles.
Ouais. Il faut toujours la chouchouter un peu. C'est pas le mot chouchouter, c'est le mot comment je peux dire ça, Richard? Il faut toujours aller vers elle pour la rassurer. Voilà. Une fille, il faut toujours la rassurer. Que ce soit bien. Si vous êtes sur une fille à l'entraînement et puis à un moment vous la harcelez parce que c'est pas bien, à un moment il faut stopper et aller la rassurer, lui dire que c'est bien, qu'elle fait des efforts, etc., etc. Parce que sinon elle tombe vite dans le j'ai la tête baissée, je mets la tête dans les baskets et là il y a plus personne quoi. Donc voilà un peu la différence entre les filles et les garçons, c'est que la fille il faut toujours la rassurer.
Oui, il y a une portion du coup beaucoup plus. Enfin, faut plus parler peut-être à une fille qu'à un garçon qui lui peut-être.
Peut-être.
La prochaine question sera. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, je disais après il y a des grands entraîneurs que je côtoie quand je leur pose des questions et je leur demande des renseignements et à chaque fois des grands entraîneurs qui me disent ah mais tu entraînes des filles? Oui, j'entraîne des filles. Mais non, les filles c'est pas fait pour le handball. Et je pense que bon, c'est avec de l'humour quoi, parce que c'est grands entraîneurs qui entraînent des garçons quoi. Mais moi je prends du plaisir, à entraîner les filles et tout se passe bien jusqu'à maintenant. Et le jour où ça ira plus, je changerai, j'irai ailleurs, je sais pas. Moi je suis que de passage sur Cognac, tant que ça se passe bien je serai là. Et puis si je vois qu'un jour ça va plus. Que ce soit avec les dirigeants ou avec le groupe, je m'effacerai et puis quelqu'un prendra ma place. Mais tant que je suis là, tant que ça se passe bien, je ferai tout pour qu'on aille le plus haut possible.
Oui. La prochaine question du coup sera pour Richard, pour continuer sur ce débat un peu fille-garçon. Moi j'ai l'impression que le handball c'est quand même l'un des sports où il y a le plus d'égalité entre les filles et les garçons au niveau médiatique. Au niveau du foot par exemple, bon voilà, le foot féminin se développe certes, mais il y a quand même une énorme différence médiatique entre le foot masculin et le foot féminin. Pareil au rugby finalement, on n'entend pas trop parler de rugby féminin mis à part au JO et sur le tournoi des destinations. J'ai l'impression quand même que au handball il y a un peu plus cette parité. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat?
Je prends 30 secondes, je vais répondre. Oui. Le fait, c'est que c'est tout simple, c'est une question d'avoir des résultats aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Si vous avez des résultats aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques, on va parler du sport féminin. Si vous n'avez pas de résultats, on n'en parlera pas. Ça sera un peu l'oubliette. Je pense que le basket féminin commence un peu à rattraper aussi le handball. Il commence à avoir des résultats intéressants sur le basket féminin au niveau mondial. Donc voilà. Tant que les Françaises au football, il y aura. Après le football c'est un peu spécial, hein. Mais si on prend un autre sport comme le volley féminin, on l'entend pas parce qu'il n'y a pas de résultats au niveau mondial. C'est parce qu'il n'y a pas de résultats au niveau mondial. C'est que ça. Si demain les volleyeuses elles sont championnes olympiques ou championnes du monde, je pense que les médias vont courir et puis pour en parler. Je te laisse la parole, Richard.
Tu partages les impressions du coach, Richard?
Totalement. Le handball féminin a commencé à exister en 2003 avec le premier titre de championne du monde et depuis il y a eu une montée en puissance. De façon régulière et permanente. Non, alors effectivement, on peut toujours dire c'est pas assez médiatisé, les matchs du championnat de France sont pas diffusés sur en clair. Mais on voit que ça évolue, il y a l'équipe 21 qui maintenant diffuse régulièrement des matchs de l'équipe de France féminine. Il y a quelques affiches qui sont diffusées. Et puis quand France 2 met des finales sur des championnats d'Europe ou championnats du monde, on est sur des audiences de 5 à 8 millions de téléspectateurs, ça commence à faire pas mal, quoi.
Moi c'est vrai que la première image que j'ai du monde féminin, alors peut-être que tu me rappelleras l'année, c'était je crois une finale de championnat du monde contre la Norvège avec des Véronique Péquer-Roland, je crois que c'était une finale perdue contre la Norvège parce que la Norvège à l'époque faisait vraiment figure d'hyper favori. Je dirais 99, mais je me trompe sûrement en termes de date. Et je me rappelle, c'était diffusé en clair et c'était pour moi personnellement le premier match de handball féminin que je voyais de à la télé.
Oui, je pense que c'est fin des années 90. Mais te dire exactement l'année, j'ai pas, je sais pas.
Et par rapport à l'arrivée de Désiré, c'est vrai qu'il y avait la fin de votre aventure avec Jamel Lafati. Quelle qualité tu recherchais pour son successeur parce qu'en plus il devait endosser donc le rôle d'entraîneur de l'équipe de National 2, plus le rôle de manager général. Et finalement, bon, le jeu de mots est facile et je m'excuse auprès de Désiré, mais est-ce que finalement Désiré était le candidat parfait?
Oui.
ce que je recherchais pour remplacer donc Jamel, c'était certes un entraîneur qui puisse s'intégrer dans le projet sportif et les objectifs à court et à moyen terme, mais surtout c'était pas changer pour changer, c'était changer en apportant quelque chose de plus, d'où ce rôle de manager général qui est peut-être un peu ambitieux pour un club à notre niveau. Mais c'était profiter de la crise du Covid pour dire, c'est compliqué. Donc, il y avait deux options. Soit tu prends une corde et tu pends dans le gymnase en disant, on ferme et on arrête. Soit tu dis, il faut faire de cette contrainte une opportunité et peut-être amener les changements que tu avais peut-être dans un coin de ta tête plus tôt pour pouvoir, le moment venu, être prêt et gagner du temps par rapport aux autres équipes.
Donc si je comprends bien, ce rôle de manager général, finalement c'est un poste qui a été créé, il n'y avait pas de manager général ces dernières années à la LGO.
Non.
Et ça répond ça répond bien sûr, j'imagine, à une envie de. Alors je sais pas si se professionnaliser c'est le mot qui convient, mais en tout cas à une envie d'évolution.
Si on veut aller le plus haut possible, il faut se professionnaliser. C'est une obligation. Si on se professionnalise pas. Des clubs passeront devant nous et nous on restera au même stade. Et on peut le voir dans n'importe n'importe quel sport. Maintenant, le sport, ça se professionnalise de plus en plus. Juste une anecdote, les arbitres aujourd'hui dans le handball, je pense que dans 3-4 ans, on n'aura que des arbitres professionnels. À haut niveau, ça sera que les gens font que ça, ça sera que professionnel pour arbitrer. Et si moi je regarde l'évolution par rapport au début quand j'ai commencé à entraîner ou quand j'ai joué à Toulouse en première division. À l'époque, on n'était pas professionnel comme aujourd'hui. Hein. Il fallait bosser un peu à côté pour vivre. On n'était pas. Aucun joueur n'était dédié à s'entraîner, à faire que les entraînements à l'époque, quoi. Donc il fallait un petit boulot à côté. Et aujourd'hui, il faut se professionnaliser. Alors je dis pas que Cognac demain va être professionnel, mais il faut se professionnaliser un petit peu dans tous les domaines au sein du club.
Et ça commence par structurer le club. Comme je dis, voilà, un édifice, ça se construit étage par étage.
Bien sûr. Et ça part d'une base très solide.
Voilà.
Vous écoutez Attitude, nous sommes avec Richard Norlinger et Désiré Parfait. On se retrouve pour l'émission Culture Sport, votre émission chaque lundi, 19h-20h30.
Et par rapport à ce championnat de National 2, la première question que j'avais à te poser, Richard, est-ce que les poules ont changé par rapport à l'an passé? On sait que le Covid, malheureusement, est passé par là. Vous avez joué très peu de matchs l'an dernier. Est-ce que les poules ont été modifiées cette année?
Non, à la marge, c'est-à-dire on enlève une ou deux équipes de Bordeaux et on se retrouve avec une équipe un peu plus au nord, mais globalement ça change pas.
Ça te permet quand même d'avoir une visibilité sur les équipes de la poule. Cette montée en National 1, on peut vraiment y croire du côté de Cognac cette année?
Je serai plus précis à Noël, mais je pense qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres. Il y a un an et quasiment un an sans handball. Et comment se sont préparés les gens pendant cette coupure? Est-ce qu'ils ont arrêté? Est-ce qu'ils ont repris juste les entraînements? Il y a un niveau de blessure qui est assez important sur l'ensemble des championnats, même chez les professionnels. Voilà, faut faire attention. Nous, on n'a pas été épargnés non plus. On a une de nos gardiennes, Leila Yakoubou, qui a eu les ligaments croisés. J'étais la semaine dernière en Alsace. La faire opérer. Et voilà, donc ça veut dire que on n'est pas à l'abri de blessures de chez les adversaires aussi. Et puis que les adversaires, forcément, il y a des filles qui ont dû arrêter, changer certainement de projet professionnel. Donc ils ont recruté de nouvelles joueuses, fait monter des jeunes, donc forcément les équipes qu'on a rencontrées l'année dernière, elles ont bougé et leur visage a changé. Donc même si on a quelques idées, c'est pas simple. Et puis l'année dernière, on a fait 3 matchs, donc on a rencontré que trois équipes.
Forcément un peu compliqué à l'heure actuelle de dégager un peu les forces en présence et de savoir un peu qui va rivaliser pour l'autre tableau.
Ouais, pas simple. Même si on a quelques idées d'équipes qui vont pas être simples à jouer. Je pense à la réserve de Celles-sur-Belle, qui est une réserve de D1. Léré a fait un bon match, mais face à une équipe un peu plus faible de Nice. Il y a Saint-Loubès aussi, qui est intéressant. Voilà. Après, je crois qu'il y a Carquefou qui est redescendu de N1. On verra.
Les modalités pour monter, quelles sont-elles? Il faut finir premier ou potentiellement il y a des play-offs? Comment ça se passe?
Non, il faut finir premier.
Justement, on parlait de Celles-sur-Belle tout à l'heure, Richard. Est-ce que c'est pour une si petite ville, une si petite bourgade, est-ce que c'est un exemple sur lequel il faudrait se pencher?
Ah oui. Oui, Frédéric Vignier, le président, a œuvré depuis des années pour amener dans cette petite ville du haut niveau, et c'est remarquable, admirable, et ils ont réussi à fédérer un nombre important de partenaires autour du projet, et aujourd'hui ils sont arrivés à 800 000 euros de budget pour jouer en D1. Alors certes c'est le plus petit budget de D1, mais ça leur permet d'exister, d'avoir gagné un match, leur premier match de championnat, donc ça veut dire qu'ils ont une équipe compétitive. Ils ont un entraîneur, Thierry Vincent, qui était avant à Mérignac, qui est passé à Toulon, qui est un entraîneur connu et reconnu.
Non, c'est oui, c'est un, en termes d'exemple, c'est la voie à suivre.
Par rapport à ça, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que dans la conduite du club, tu as deux ou trois axes fondamentaux qui ont changé, Richard? Qu'est-ce que ça a amené à ta réflexion?
Bonne question. Le recrutement de Désiré pour aider à la structuration.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, le bénévolat a ses limites et il faut aller chercher des compétences de professionnels pour nous aider à passer un cap. Et ça rentre totalement dans ce projet.
J'ai vu sur la présentation de la saison que l'effectif avait un peu été modifié avec 6 départs et 5 arrivées. Est-ce que tu peux nous... On parlait de celle sur Belle, il y a notamment Annabelle Courcelle qui vous a rejoint cette saison, ancienne joueuse de notamment de la CH et de celle sur Belle. Est-ce que tu peux un peu nous parler des recrues qui vous ont rejoint et de leur qualité?
Alors là, je vais laisser parler le coach, oui. Sur les qualités handballistiques des filles. Mais Annabelle était déjà au club l'année dernière.
D'accord.
Elle avait pris une licence, mais bon, elle n'avait pas repris à jouer. Son projet était de terminer sa carrière un peu mieux que ce qui s'était passé à Angoulême à l'époque. Et donc, elle avait cette envie. Je pense qu'il lui fallait peut-être un peu de temps pour digérer son départ d'Angoulême. Et puis après, nous, on a mis en place les conditions pour lui donner envie de revenir. Maintenant, je vais laisser la parole à Désiré pour parler des recrues et des qualités handballistiques qu'elles ont.
On va commencer par Annabelle, puisque vous la connaissez un peu apparemment. Moi, je la connais depuis longtemps, depuis un petit moment, puisque je l'ai jouée quand elle était à Bouillargues à l'époque. Elle a un mauvais souvenir de moi parce que j'avais battu. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit la première fois au téléphone. Après Annabelle, Annabelle c'est une bonne recrue parce que c'est une fille d'expérience surtout. Voilà, une fille qui est capable, je pense, sur un terrain, de calmer les choses quand il faudra les calmer, et puis de sortir la bonne parole au groupe et de m'aider dans ce sens. Donc c'est surtout par rapport à ça, quoi. C'est une fille qui a beaucoup d'expérience. Ensuite, on a récupéré Cathy également, qui vient d'Angoulême. Cathy, c'est une fille qui n'est pas une tireuse de loin, mais sur l'explosivité. Non, Cathy, c'est une fille qui est surtout sur l'explosivité. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le handball, les meilleurs handballeurs, les plus forts, c'est ceux qui ont le plus d'explosivité. Aujourd'hui, le handball, il faut travailler l'explosivité, la vitesse, explosivité. C'est la priorité des fondamentaux techniques du handballeur. Je ne parle pas de la passe, etc. Hein. Mais c'est hyper important aujourd'hui chez les handballeurs. Donc Cathy, voilà, c'est surtout l'explosivité, donc c'est surtout très intéressant par rapport à son explosivité. Ensuite, on a Marion Barret, qui vient également d'Angoulême. Je dirais que Marion, elle a un peu suivi ses deux copines et m'a appelé en demandant si j'étais intéressé. Et sur le coup, je lui ai dit que un poste de pivot, c'était pas ma priorité. Mais que c'était la bienvenue. Et puis, en fin de compte, après discussion avec Marion aura un rôle très, très important en défense. On a discuté ensemble. Et puis, en fin de compte, ça lui convient très, très bien. Ensuite, ça, c'est la troisième. Ensuite, on a qui, Richard? Alors, après, on a la petite Léonore, mais qui était au club et qui arrive du pôle. Donc là, la difficulté, c'est que la petite Léonore, je l'ai pas de la semaine, je l'ai que le vendredi. Donc ça, c'est la difficulté de travailler avec le groupe. Mais elle alternera également avec les moins de 18 quand s'il en aura besoin sur les gros matchs, puisqu'on a décidé de mettre nos moins de 18 en élite, en élite région, puisque le niveau est meilleur que pour élever un peu le niveau. Pourquoi j'ai 6 recrues? Non, j'ai pas 6 recrues.
Et puis donc, il y a aussi l'arrivée de Tamara
Stojanovic. Ah oui, pardon.
Du Monténégro.
Oui, pardon.
C'est la fibre handball des pays du Balkan. On sait que c'est assez populaire quand même, le handball là-bas.
Je connais un petit peu parce que j'ai eu la chance d'entraîner aussi une ou deux joueuses de là-bas. C'est des gens qui sont hyper professionnels. C'est des gens que vous avez à l'entraînement qui rechignent pas la tâche, qui sont hyper professionnels et vous allez jamais les entendre. Jamais elles vont se plaindre à un moment ou à un autre, jamais. C'est des gens là-bas, voilà, c'est comme ça, c'est pays de l'Est, les gens ne se plaignent pas. Donc Tamara, il nous fallait une gauchère, et surtout une gauchère de base arrière. Et puis on a eu un peu la chance, même si on était en concurrence avec un ou deux autres clubs du coin sur Tamara, on a eu la chance de pouvoir la ramener chez nous. Je félicite le président qui a été très bon pour sur les arguments pour la faire signer à l'LGO, et c'est un très bon atout supplémentaire, voilà, sur la base arrière et surtout sur la base arrière droite en tant que gauchère. Et puis elle a aussi un peu d'expérience puisqu'elle a joué en D2 et N1 en France sur 2-3 clubs.
Ah oui, donc c'est une joueuse du coup qui est habituée quand même à jouer en France.
Oui,
c'est une joueuse. Elle parle français d'ailleurs ?
Oui, elle parle très très bien le français.
D'accord, ok. Donc ça facilite forcément son intégration dans l'équipe.
Ouais, de toute façon, à chaque fois que j'ai pu entraîner des joueuses qui venaient d'étrangers qui ne parlaient pas français. La priorité pour moi, c'est qu'on est à l'entraînement. Si elles viennent, c'est à elles de parler le français. Donc au début, on parle en anglais.
Oui.
Et après, il faut que la joueuse s'intègre. Donc c'est à elle d'apprendre le français. Mais Tamara parle très très bien le français. Son mari, pour information, son mari joue à Sainte en National 1 Elite.
Et donc je vois qu'il y a 16 joueuses dans le groupe. Est-ce que 16, c'est bien?
Alors il y a 16 joueuses, je sais pas la liste que vous avez.
C'est celle de la Charente Libre dans la présentation qu'ils ont faite.
Ouais, alors il y a une joueuse qui s'appelle, vous avez Capucine sûrement sur la liste. Malheureusement, je crois que vous devez avoir Capucine, voilà, oui. qui a 16 ans, c'est ça, Richard? J'aurais pu mettre Cyrine avec, j'aurais pu mettre d'autres. Mais en fin de compte, ces joueuses sont trop jeunes. Je les ai pris sur des matchs amicaux, elles ont joué un petit peu avec moi. Mais là, elles sont trop jeunes pour jouer en National 2.
D'accord. Donc elles vont jouer du coup avec soit les 19, soit la réserve.
Elles vont jouer avec les moins de 18, surtout les moins de 18 élites. Mais à savoir qu'elles s'entraînent il y en a 3 ou 4 qui, même un peu plus, je dirais 4 ou 5 moins de 18 qui s'entraînent avec moi, avec la National 2, une à deux fois par semaine.
C'est bien, ça permet justement de les aguerrir, qu'elles voient un peu le niveau qu'elles pourraient potentiellement rejoindre dans quelques, mois ou l'année prochaine.
Ouais, c'est exactement ça, on prépare sur l'année prochaine et les 2 ans à venir, quoi. C'est pas des filles qui vont jouer 60 minutes l'année prochaine, mais dans les 2 ans, 3 ans, ça doit être des cadres du club, des cadres de l'équipe, mais il faut absolument aussi leur proposer un niveau au-dessus, je pense. Parce que c'est comme tous les clubs, à l'intersaison, tout le monde fait son marché, tout le monde appelle. Et quand vous voyez une pépite quelque part et que vous appelez Celle-sur-Belle, vous téléphonez. Et Celle-sur-Belle va dire, moi je vous propose ça, centre de formation. Et nous à Cognac, on va dire, on propose que de la N2. Hein. La fille, elle fait vite le choix, quoi, elle s'en va. Après, tant mieux pour elle si elle peut aller jouer au plus haut niveau. Hein. Je retiens personne. Hein. Si une fille peut aller jouer à très très haut niveau, il faut qu'elle parte. Ça n'a pas de souci par rapport à ça.
Bien sûr, et puis j'imagine qu'une jeune qui part dans un club d'élite, j'imagine qu'elle garde quand même ses attachements à Cognac, et que si malheureusement son parcours se termine là-bas, elle peut toujours revenir.
Tout à fait. Ouais. J'ai eu la chance dans ma carrière d'entraîneur de faire signer des jeunes joueurs dans des grands clubs et d'être dans le bureau du président de grands clubs de première division France et de faire signer des contrats pro. Ces jeunes joueurs que j'ai eu la chance de faire signer dans des clubs, je veux dire aujourd'hui, quand ils m'envoient un message, je suis super content, quoi, parce que c'est des choses qui sont passées il y a plus de 20 ans.
Bien sûr.
Et on reste toujours en contact, et puis je suis super content de ce que j'ai pu faire pour eux, de les amener à haut niveau.
Vous écoutez Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Ce soir, nous recevons la LGO.
Et puis, en parlant de tes principes de jeu, Désiré, quel handball tu souhaites pratiquer à Cognac ?
C'est toujours la question. Est-ce que vous allez. Enfin, je sais pas. C'est un peu la question.
C'est un peu la question qu'on pose au nouveau coach qui arrive.
Aujourd'hui, ça devient une question un peu bateau, quoi. C'est comme si on me dit tu veux monter, je vais la faire à la Giroud, quoi. Non, je veux jouer le maintien. C'est un peu la question, les principes de jeu. Tous les entraîneurs aujourd'hui vont vous sortir la même chose dans le handball. C'est grosse défense, aller le plus vite possible de l'autre côté. C'est défendre.
Bien défendre pour mieux attaquer, du coup.
C'est bien défendre et se projeter le plus vite possible, dans la partie adverse, quoi. Pour pas laisser le temps à la défense de se mettre en place.
Forcément, un aspect hyper important dans le handball, c'est la transition défense-attaque.
Ouais, exactement, ce qu'on appelle le jeu de transition. Ouais. Et après, par contre, vous pouvez tomber sur une équipe qui est très très bien organisée sur le repli défensif. Donc là, ça vous pose des problèmes. Donc il faut travailler aussi d'autres choses après sur l'attaque placée, etc., etc. Quoi. Mais je suis pour qu'on se projette le plus vite possible sur la partie adverse.
Désiré, qu'est-ce que tu avais identifié comme force et faiblesse à la LGO quand tu es arrivé?
Ouais, quand je suis arrivé, j'ai dit elles sont nulles.
D'accord.
Donc c'est bien évidemment une boutade, c'est entre guillemets.
J'ai bien compris.
Et c'est un peu ma philosophie, c'est-à-dire que j'arrive quelque part, j'ai toujours aux gens qui sont nuls et qui n'ont rien appris et qui connaissent rien. Les forces, c'est... comment je peux vous dire ça? Les forces, je dirais que c'est quand même un groupe qui a du mental.
D'accord.
Et après, sur le plan technique, si je vous parle franchement sur le plan technique, le groupe actuel, à part les 3-4 joueuses qu'on fait un peu à niveau, qu'on fait du niveau au-dessus, au niveau des fondamentaux individuels, il y a des lacunes.
Voilà. C'est bien, ça veut dire qu'il y a une grosse marge de progression?
Ouais, tout à fait. Donc faut pas avoir peur de le dire, quoi. Et c'est pas forcément la faute de Jamel, c'est surtout à la base, au départ, quand elles ont appris le handball, quoi. On n'aura pas donné tous les ingrédients pour être performantes quand elles étaient pour aller jouer au niveau national. Mais il y a des lacunes sur les fondamentaux techniques individuels. Et puis je dirais que la meilleure philosophie, comme Richard a dit, c'est de mettre les meilleurs entraîneurs ou les meilleurs entraîneurs qu'on puisse avoir chez les jeunes. Faut les mettre tout de suite au départ à la base, parce que sinon, pour ces fondamentaux individuels, voilà, que tout soit acquis au fur et à mesure. Et il faut un petit projet technique dans le club. Donc on va mettre ça en place dans 15 jours. Je vais un peu m'initier un peu plus dedans et je vais demander aux entraîneurs de bosser d'une certaine façon pour que quand ces jeunes-là arrivent à maturité, on ait pu à revoir certaines bases quand elles évoluent en national, quoi.
Oui, d'ailleurs cette double casquette que tu as, Désiré, est-ce que tu... Pour l'instant, j'imagine que le côté entraîneur, c'est 90% de ton temps entre la préparation...
Aujourd'hui, oui.
Ouais. Mais sur le temps, comment tu estimes un peu entre guillemets jongler entre ces deux casquettes?
Moi, j'ai du temps. Aujourd'hui, j'ai du temps. Je suis là que pour ça. Donc, j'ai 200% à me consacrer. Je peux me consacrer à 200% à la LGO, quoi. J'ai assez de temps pour faire mes préparations et puis pour me consacrer à ma deuxième casquette, qui sera la casquette de manager général. Pour ça, j'ai assez de temps, donc je veux pas vous donner un pourcentage en disant oui, je fais ça à 50%, ça. J'ai assez de temps.
Et puis c'est vrai qu'avec 3 entraînements par semaine plus le match le week-end, ça laisse quand même du temps pour se concentrer sur le côté manager.
Ouais, on va rajouter à partir de la semaine prochaine une petite séance de musculation le lundi pour les joueuses qui sont sur Cognac, qui sont dispo. Et pour les autres, je suis en train de voir pour mettre en place une fille qui habite à La Rochelle. On va pas lui demander de venir pour faire de la muscu, mais je suis en train de voir pour les gens d'Angoulême et qui sont à l'extérieur, de leur proposer d'aller dans une salle et de leur proposer une feuille de route sur la musculation. Sur du renforcement musculaire.
Bien sûr. Et on parlait d'ailleurs de se professionnaliser un peu avant dans l'entretien. Il y a aussi une partie importante dans le sport là qui devient de plus en plus prédominante, c'est l'analyse vidéo. J'imagine que du coup vous avez, enfin, par rapport à ton parcours d'entraîneur, tu as intégré ça au fur et à mesure que ça a pu évoluer. Aujourd'hui, quelle est l'importance quand on est national de féminine j'imagine que tous les matchs sont filmés. Est-ce que c'est important de le revoir en vidéo? Est-ce qu'il y a des séances d'analyste vidéo qui sont programmées?
Alors, je vais vous dire comment je fonctionne. Moi, je prends la vidéo, moi je la regarde. Moi, je fais des analyses, je la regarde. Après, j'en discute aux filles, j'en discute mais individuellement avec les filles. Après, je fais pas de séance collective. Je vais vous dire pourquoi je fais pas de séance collective. Comme je vous ai dit, on n'est pas professionnel. La fille va se regarder et va pas regarder ce qui est, je veux dire, si elle va se regarder ou alors si c'est un moment où elle joue pas, elle va être distraite et elle va pas écouter. La fille va être intéressée que parce que comme elle est pas pro. Que par ce qu'elle a fait elle. Et vous imaginez faire une vidéo avec une fille qui a joué 5 minutes ou 10 minutes,
oui,
alors qu'elle n'est pas pro.
Oui, donc au final, si je suis ton raisonnement, au final, une séance de vidéo collective, bah au final,
je dis pas que je vais pas en faire peut-être une ou deux dans la saison avec des choses bien précises, mais faut plutôt travailler individuellement, quoi. Voilà, travailler individuellement, moi je regarde la vidéo et ensuite j'en discute individuellement avec la joueuse. Et s'il faut que je fasse des petites vidéos de 2-3 minutes pour montrer à la joueuse, je le ferai. Voilà. Mais sans plus, je fais pas des séances vidéo collectives qui moi me après avec l'expérience que j'ai, hein, j'en ai déjà fait, hein. Au bout d'un moment, voilà, au bout de 20 minutes de séance vidéo, vous avez la moitié de l'équipe qui a joué 30%, voilà, qui parle parce que elles se disent, moi, je suis pas intéressé et je n'étais pas dans ce match, quoi.
Et puis, par rapport au match d'Angers, c'était forcément un premier match forcément perfectible. Quelle source d'amélioration t'as déjà identifié pour les prochaines sorties?
Vous savez, dans le, c'est ce que je dis, en première dans le monde professionnel, Montpellier fait des matchs amicaux contre Saint-Raphaël, contre Nîmes, contre Limoges, et les rencontres en championnat, hein. Donc la vidéo, même s'ils écoutent ou qu'ils voient des vidéos, c'est pas ce qui me dérange, hein.
D'ailleurs, je te coupe par rapport à ça. Est-ce que toi tu as pu voir par exemple le match en vidéo de ton adversaire du week-end prochain ou pas?
J'ai une première mi-temps, ouais.
D'accord.
Voilà, parce que je l'ai demandé à quelqu'un que je connais et qui me l'a transmis. C'est pareil. C'était sur un match de préparation, donc moi si vous prenez la vidéo du premier match contre Pessac, vous allez dire c'est quoi cette équipe, quoi. Mmh. Ouais, c'était les filles n'avaient pas joué depuis un an et demi. On démarrait l'entraînement, on n'avait qu'une semaine d'entraînement. On va faire un match amical contre Pessac, qui est peut-être la plus grosse équipe de National 1 dans la poule ouest là, et qui risque de monter. Donc c'est pas moi, j'ai une vidéo et peut-être ça reflètera pas ce que je vais voir au samedi, quoi.
D'accord.
Mais j'ai voilà, ça me donne quelques idées par rapport à Bléré. Mais comme je dis, je m'occupe d'abord de mon équipe avant de m'occuper de l'équipe adverse.
Il y a des échanges entre les clubs, des vidéos de match ou pas?
Oui, ça existe. Après, ça dépend des relations que vous avez. Après, il y a une sur le site de la Fédé, on peut poster des vidéos. Si vous voulez poster des vidéos, vous avez le droit de poster des vidéos de vos matchs. Donc, il y a des gens qui les postent et des gens qui les postent pas. Moi, aujourd'hui, pour l'instant, je l'ai pas fait là. Peut-être que je le ferai, je sais pas. C'est pas une de mes priorités. Et après, il y a des échanges entre entraîneurs. Après, ça dépend de la relation que vous avez avec l'entraîneur que vous rencontrez, quoi. Ouais, après, on discute, ouais, entre entraîneurs. L'entraîneur d'Angers va peut-être me dire, est-ce que tu connais telle équipe, ce que j'ai joué. Moi, je vais demander peut-être à un autre entraîneur, tiens, la semaine prochaine, je joue telle équipe, tu les as joués, comment ça se passe. Il y a des échanges, oui, bien sûr.
Bah là, il faut aller se renseigner avec l'entraîneur de La Rochelle-Onis qui a joué contre Bléré le week-end dernier.
Non, je vais vous dire, d'abord, je m'occupe de mon équipe. Et après, je verrai l'équipe de Bléré. Mais d'abord, faut que je travaille avec mon équipe.
Oui, parce qu'au final, c'est vrai que la préparation vient juste de terminer. Le championnat vient juste de commencer. Donc, on est encore en mode montée en puissance. Ouais. Et puis,
ce qu'il faut rectifier. Ouais, quand je vous disais tout à l'heure, ça manque de lacunes fondamentaux techniques. Au handball, demain, je vais jouer Bléré. Bléré défend dans la logique ce qu'on appelle en 0-6. Elles sont plutôt en 0-6 en homme, ou fille à fille, comme on dit. Peut-être que je vais arriver à Bléré, puis elles vont défendre en 1-5, 2 zones, je sais pas. Elles vont changer. Et quand je vous disais qu'il y avait des lacunes, c'est qu'aujourd'hui, certaines filles de Cognac font pas la différence quand elles attaquent par rapport à la défense qu'elles ont en face. Donc c'est ça, les lacunes. C'est que aujourd'hui, quand on est joueur de handball, on doit faire des analyses. À ce niveau-là, en National 2, la fille doit analyser qu'est-ce qu'il me présente comme défense en face. Comment j'attaque cette défense? Comment défend la joueuse que j'ai en face de moi, est-ce qu'elle joue haute, est-ce qu'elle joue basse, voilà. Et tout ça, c'est tout un travail que je suis en train de mettre en place par rapport à ces joueuses que j'ai aujourd'hui, on leur a pas appris avant. Donc tout ça, c'est un travail aussi que je suis en train de mettre en place, quoi.
Désiré, est-ce que dans le groupe que tu as déjà détecté des filles qui pourraient être des relais pour toi sur le terrain?
Oui, on va parler de Annabelle. Je pense qu'Annabelle, Audrey Doré. Et puis la capitaine Cindy, c'est des relais. Et puis je crois que j'ajouterai un peu Marlène. Voilà, il y a 3-4 filles qui sont un peu plus de caractère et qui seront un peu les relais, mais je pense qu'Annabelle est un très bon relais.
C'est important d'en avoir sur le terrain, non ?
Oui, tout à fait. Surtout quand une fille a joué un peu plus d'expérience, c'est hyper important. Et après, moi, je suis coach, je suis humain, donc je vois pas forcément tout. Je peux faire aussi des erreurs. Et puis voilà, quand on a deux joueuses comme ça d'expérience sur le terrain, elles peuvent aussi des fois vous apporter une ou deux choses que vous avez pas vues.
Ouais, c'est ce que je voulais dire. Elles peuvent être parfois force de proposition, non ?
Tout à fait, ouais, tout à fait.
Christian ?
C'est un championnat où il faut terminer premier, donc c'est ouais, forcément compliqué. Ouais,
c'est compliqué
parce qu'en plus, bah, j'imagine que vous n'êtes pas les seuls ambitieux dans cette poule. Sur quoi potentiellement tu penses que ça peut se jouer cette première place ? C'est vraiment finalement les matchs contre les concurrents directs ou final c'est les points contre les équipes entre guillemets du bas tableau qu'il faudra absolument.
C'est contre les concurrents directs quoi. C'est comme voilà. Quand vous jouez le haut de tableau et que vous voulez monter, les points, c'est on le voit dans tous les sports, quoi. C'est contre les concurrents directs. Après, faut pas faire des faux pas contre les équipes plus faibles, mais je pense que là, on n'en fera pas. Mais c'est contre les concurrents directs, voilà, le plus important.
Richard, est-ce qu'il y a le mot du président ?
Le mot du président, j'espère que les enfants vont retrouver le gymnase, le chemin du gymnase, parce que ça, c'est important, c'est l'avenir. J'espère que notre projet va pouvoir avancer comme je le souhaite. Et puis, on se donne rendez-vous en fin de saison pour faire un bilan.
On se donnera rendez-vous à la mi-saison, parce que ça sera un virage important à prendre. Je suppose que vous avez coché dans votre feuille de route des objectifs à atteindre en cours de saison. Et donc, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera à ce moment-là, Richard.
Le plaisir est toujours partagé de venir chez vous.
On va vous souhaiter le meilleur, donc la santé tout d'abord, et puis beaucoup de réussite sportive. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Pardon. On vous dit à très bientôt et merci encore d'être venu.
Merci à vous. Merci.